Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Maroc côté pile. L'espace Bidaya à Casablanca a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat auprès du grand public et plus particulièrement auprès des populations vulnérables. Cette activité de sensibilisation passe par l'organisation régulière d'événements, la participation active à la vie de l'écosystème entrepreneurial marocain et par la communication régulière d'opportunités sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Sarah Diouri dirige l'espace Bidaya. Elle est notre invitée. Le Maroc encore, cette fois côté FAS, Human Rights Watch dénonce l'instrumentalisation d'une loi pour museler les voix contestataires ou dissidentes. Principales victimes, les jeunes, journalistes internautes, privés de liberté d'expression lorsque les sujets traités sont trop sensibles. Ahmed Benchemsi, porte-parole de l'ONG, est dans Orient Hebdo. En seconde partie d'émission, la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Sarah Diouri.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'espace Bidaya à Casablanca, au Maroc. Qu'est-ce que c'est que cet espace Bidaya et quelle est son ambition ?
Alors, Bidaya, c'est un incubateur d'entreprises qui ont un impact social ou environnemental. L'ambition de cet incubateur, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au Maroc, mais aussi d'accompagner des entrepreneurs qui ont déjà un projet dans la concrétisation donc, de leur entreprise à impact social ou environnemental.
Qu'est-ce que vous leur proposez exactement comme accompagnement ?
Alors, on a deux programmes d'accompagnement distincts, le Bidaya Incube et Bidaya Funds. Bidaya Incube contient une série de formations, workshops qui adressent différents sujets de création d'entreprise. Donc, ça peut aller du marketing, du positionnement, de la stratégie, au business model, prototypage, etc. Donc, l'idée, c'est d'accompagner de manière transversale ces projets pendant un an. Le programme Bidaya Funds, lui, est plus concentré sur l'accès au financement. Donc, il va s'adresser à des entrepreneurs qui ont déjà une preuve de concept et les formations vont plus se concentrer sur l'accès au financement, la construction du business plan financier. Et à la fin de cet accompagnement qui est plus court, qui dure 3 mois, on les fait pitcher, donc présenter leur projet devant une quinzaine d'investisseurs et les meilleurs d'entre eux tirent des fonds de Bidaya, donc qui sont sous forme de prêts d'honneur ou subventions.
Mais à qui vous adressez-vous ? Ce sont plutôt des jeunes entrepreneurs, des hommes, des femmes ?
Alors, on n'a pas de critères discriminants sur l'âge ou sur le genre. L'idée, c'est la qualité du projet et la qualité du porteur de projet ou de la porteuse de projet. Donc, on s'adresse à des gens qui sont créatifs, donc qui ont une idée d'innovation sociale ou innovation environnementale, des gens qui ont une vision business. Donc, l'idée, c'est pas de se retrouver dans le côté associatif ou humanitaire, c'est vraiment de créer des business, des modèles économiques viables, mais qui répondent à des problématiques sociales ou environnementales.
Justement, Espace Bidaya appartient à un réseau beaucoup plus vaste, international, d'incubateurs. Ils ont choisi une femme, donc au Maroc. Est-ce que c'est un choix délibéré ?
C'est à eux qu'il faudra demander. Je ne sais pas s'il y a eu un critère par rapport à ça, mais peut-être que dans la réalité, ce genre de poste donc, qui est sur l'entrepreneuriat à fort impact, peut-être que ça a attiré plus de candidates que de candidats. Ensuite, je pense qu'il y a certaines compétences managériales qui sont nécessaires pour ce poste et que j'avais pu développer. Donc, j'imagine que c'est ce qui a joué.
Et dans votre travail au quotidien, à l'espace Bidaya, est-ce que vous êtes confronté parfois à des difficultés, vous en tant que femme, face à des jeunes entrepreneurs qui ont souvent beaucoup d'énergie à revendre ?
Je pense qu'en tant que femme, les tout rôle de direction donc, qui nécessite un certain leadership, il y a des challenges supplémentaires lorsqu'on est une femme. Donc, par exemple, dans des réunions où il y aura surtout des hommes, ou voire que des hommes. Il faut avoir suffisamment de confiance pour prendre la parole, défendre ses idées, ou ne serait-ce que se faire inviter à ces événements ou ces réunions aussi. Je pense que c'est plus une attitude à développer. C'est plus en fait la personne qui est donc dans ce poste de management ou de direction qui doit en fait faire fi de cet obstacle ou de cette irrégularité, puisque c'est pas très commun d'avoir des femmes dans les positions de leadership pour mener à bien sa mission qui est, dans mon cas, celle de diriger l'incubateur et accompagner un maximum d'entrepreneurs.
Justement, est-ce que vous sentez que dans le secteur dans lequel vous évoluez, avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes gens et de jeunes filles qui veulent réussir un projet, finalement, être un homme ou une femme, ça passe au second plan ?
Oui, je pense que sur la nature des projets portés ou sur la nature des activités, c'est pas un élément qui vient contraindre mes activités au quotidien ou qui vient auquel je pense constamment. Je fais mon travail indépendamment de ces considérations. Après, c'est vrai que je dirais qu'en tant que femme, on est plus exposée dans les deux extrêmes du spectre, on va dire. C'est-à-dire que à la fois il y a plus de contraintes, mais parfois aussi il y a plus d'opportunités. Je prends l'exemple de l'invitation à cette conférence aujourd'hui. C'est sur le thème des femmes dans la Méditerranée. Je sais que j'ai été invitée à cet événement parce que je suis une fille et que, en l'occurrence, j'ai eu pas mal de visibilité également au Maroc de par mon rôle en tant que femme dans cette organisation. Et dans l'autre extrême, il faut vraiment assumer son rôle et avoir confiance en soi pour défendre les missions qu'on doit faire au quotidien.
Et à travers votre espace Bidaya, vous pouvez aussi contribuer à cette évolution ?
Alors, à Bidaya, on n'a pas de focus genre, comme je le disais tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'on a des femmes entrepreneurs, des femmes porteuses de projets. Et j'essaie toujours de faire attention à cet aspect-là dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. D'ailleurs, on envisage des formations sur le leadership au féminin pour adresser peut-être des besoins qui sont plus spécifiques aux femmes entrepreneurs.
Sarah Durie, merci.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Ahmed Benchemsi.
Bonjour.
Directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Human Rights Watch. Nous sommes en ligne avec vous depuis New York, siège de votre organisation, une ONG de défense des droits humains qui dénonce l'instrumentalisation d'une loi au Maroc contre les journalistes. Expliquez-nous.
Alors effectivement, nous avons publié un communiqué dernièrement qui proteste contre l'utilisation par les autorités marocaines d'une loi qui n'a rien à voir avec la presse à la base, qui sert à prévenir l'usurpation de fonctions. Hein, je pense qu'il y a l'équivalent de cette loi à peu près partout dans le monde. Vous savez, des gens qui, prétendent exercer la médecine sans avoir de diplôme de médecin, ou des faux dentistes, ou des gens qui conduisent, des poids lourds sans avoir le permis adéquat. Donc il y a des lois pour prévenir ça, parce qu'effectivement, les gens qui font ça mettent en danger la vie et la santé d'autrui. Eh ben, les autorités marocaines se servent de cette loi-là pour museler des journalistes. En disant que des jeunes gens écrivent sur les réseaux sociaux, qui publient des photos en cherchant à dénoncer des violations des droits humains, ils n'ont pas le droit de le faire parce que, comme celui qui fait de la médecine sans diplôme, un journaliste n'a pas le droit de faire du journalisme sans accréditation officielle. Évidemment, c'est absurde. Nous considérons que c'est une atteinte à la liberté d'expression et qu'il ne faut pas mettre ces métiers-là à la même enseigne.
Alors la dernière affaire en date, c'est celle de Nessa Khalidi, qui est membre du collectif d'activistes sahraoui Équipe Média. Elle a été arrêtée en décembre dernier et son procès devait débuter le 20 mai. Rappelez-nous cette affaire.
Alors ce qui s'est passé, c'est que le 4 décembre 2018, Nessa Khalidi était dans la rue à Al Aaiun en train de documenter une scène de rue. Alors nous disons scène de rue parce qu'elle filmait, elle semblait décrire une manifestation, mais bon, je n'ai pas vu de manifestation sur ces images. Cela dit, c'est quand même son droit de filmer ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut. La liberté d'expression est claire pour tout le monde. Il se trouve qu'à la fin de sa retransmission live sur Facebook, on voyait très nettement un homme qu'on présume être un policier, la pourchasser, la faire tomber au sol, et puis c'était la fin de la retransmission. Et par la suite, Nessa Khalidi a été arrêté pendant quelques heures, on lui a confisqué son téléphone, et puis surtout on lui a fait un procès, basé sur cet article du code pénal, l'article 381 du code pénal marocain précisément, qui interdit à, je cite, « quiconque fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée sans remplir les conditions exigées ». C'est-à-dire, dans ce cas-là, en clair, ce qu'on reproche à Nessa Khalidi, c'est d'avoir fait du journalisme sans être journaliste. En tout cas, sans être journaliste, c'est ce que disent les autorités marocaines. Hein. Mais dire ça consiste à nier l'existence du concept de journalisme citoyen, à savoir que tout citoyen armé d'un téléphone portable peut aujourd'hui documenter ce qu'il veut et parler de ce qu'il veut, et que ça relève de la liberté d'expression la plus basique. Eh bien, pas pour Nessa Khalidi, puisqu'elle est traînée en justice par l'État marocain pour ça.
Alors justement, son procès a été finalement reporté au 24 juin prochain. On signale au passage que 5 avocats espagnols et 2 observateurs norvégiens ont été empêchés d'assister au début du procès, qui devait avoir lieu le 20 mai dernier. Mais est-ce que le problème, finalement, c'est rapporter des images de liberté d'expression, en quelque sorte, ou le sujet lui-même qui était le Sahara occidental? Et là, on sait que pour le Maroc, c'est une question importante, voire primordiale.
Je pense que le problème, au fond, c'est que l'État marocain ne reconnaît pas encore pleinement la liberté d'expression. Ce n'est pas uniquement... Le Sahara occidental, évidemment, est un sujet très sensible au Maroc, et les activistes, comme c'est le cas de Zaha Khalidi, qui militent pour l'autodétermination et qui sont réputés proches du Polisario, sont particulièrement surveillés par les autorités. L'oppression, si j'ose dire, est démocratiquement répartie, parce qu'il ne s'agit pas uniquement du Sahara occidental. Il y a eu au moins deux cas de journalistes qui viennent du RIF, c'est-à-dire le nord du Maroc, aucun rapport avec le Sahara, et qui ont été condamnés en application des mêmes articles. Alors, pour d'autres raisons aussi, mais notamment l'application des mêmes articles. Alors qu'ils sont journalistes, ils sont rifains, ils ont publié des articles ou des vidéos qui dénonçaient la répression dans le nord du Maroc, ils ont été mis à la même enseigne, eux aussi ont été condamnés à des années de prison. Donc non, en l'occurrence, ce n'est pas le Sahara occidental le problème. Le fond du problème, c'est que les autorités marocaines ont un problème avec la liberté d'expression, elles n'acceptent pas que des citoyens puissent documenter des abus de la police ou des forces de l'ordre et les poster sur des réseaux sociaux.
Oui, les deux journalistes auxquels vous faisiez allusion il y a un instant à propos du RIF, l'un était directeur d'un site web, l'autre était administrateur d'une page Facebook. Est-ce qu'il y a au Maroc un problème de censure déguisée de la presse et notamment de la presse sur Internet ?
Ah, tout à fait, oui. Cet exemple le montre. C'est pas de la censure déguisée. Pour nous, c'est de la censure claire et nette. Vous savez, il y a 3 ans maintenant, en 2016, l'État marocain a passé un nouveau code de la presse. Et il s'est félicité de ce code à tambour trompette en disant « Ah, c'est formidable, la nouvelle loi sur la presse ne prévoit pas de peine de prison ». Très bien, super. Sauf que, depuis, on a vu plusieurs journalistes poursuivis sous le code pénal, qui lui prévoit des peines de prison. Alors, ça sert à quoi de faire une loi spécifique pour les journalistes qui les prémunit de la prison, ce qui est effectivement un standard démocratique tout à fait appréciable, et puis ensuite de les juger sous le code pénal qui lui prévoit de la prison? Ça sert à rien. C'est le même État, c'est le même gouvernement. Pourquoi voulez-vous qu'on se félicite d'une liberté qui est accordée d'une main et puis reprise de l'autre? Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il est clair que l'État marocain a un problème avec la liberté de la presse et qu'il la réprime par différents moyens. Et
que faut-il faire? Il faut amender l'article 381 ?
Premièrement, oui, il faut amender l'article 381 pour en exclure clairement le journalisme et dire que non, le journalisme n'est pas une profession qui est sujette à licence. Alors, il y a des normes internationales à ce sujet-là. En fait, l'État marocain, comme tout État, a le droit d'organiser toutes les professions comme il veut. Simplement, il y a des normes internationales. Et en l'occurrence, la norme internationale, c'est l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Maroc en 1979, et qui garantit la liberté d'expression. Quand on regarde dans les détails de cette convention, il est dit clairement que, je cite, « les systèmes généraux d'enregistrement et d'accréditation des journalistes par l'État sont incompatibles avec la liberté d'expression. C'est le cas au Maroc. Les cartes de presse sont attribuées aux journalistes des médias nationaux selon les modalités prévues par la loi. Or, quand les journalistes sont accrédités légalement parce que la loi l'impose, c'est considéré comme une accréditation d'État et du coup, c'est incompatible avec la liberté d'expression en vertu du droit international.
Merci Ahmed Ben Chemsi.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Human Rights Watch. Et vous étiez en ligne avec nous depuis New York. La revue de presse croisée Israël Monde Arabe, Alexandre Boutchanti est en ligne avec nous depuis Le Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul nous attend à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
La crise politique en Israël retient l'attention de vos journaux respectifs, c'est une évidence, à commencer par la presse arabe, Alexandre.
Oui, Netanyahou se bat pour son avenir politique, mais aussi pour son avenir personnel. C'est le titre d'Al-Quds Al-Arabi. Le journal estime en effet que la crise politique israélienne menace directement le premier ministre sortant du fait des poursuites judiciaires pour corruption dont il fait l'objet. D'autres éditorialistes sont partagés sur la période intérimaire avant les prochaines élections. Certains pensent que Benjamin Netanyahou pourrait être tenté par des opérations militaires spectaculaires pour séduire une plus grande partie de l'électorat, alors que d'autres pensent que ce sera plutôt une période de statu quo. Mais Tous les commentateurs sont d'accord sur le fait que la crise israélienne va reporter sine die le deal du siècle, le surnom adopté par la presse arabe pour décrire le plan de paix du président américain Donald Trump. Un projet dont les contours restent encore très flous et qui fait craindre le pire aux journalistes palestiniens.
Michel Paul, ces nouvelles élections, les secondes en moins de 6 mois, occupent évidemment les premières pages de la presse israélienne.
Et oui Eric, c'est reparti pour un tour, on peut le dire. C'est une des semaines les plus folles qui s'achèvent et les Israéliens semblent en lire leurs journaux quelque peu dépassés par les événements. Israel Hayom, le journal proche du pouvoir, pose la question qui est sur toutes les lèvres ici. Qui nous dit qu'à l'issue de la nouvelle consultation, l'imbroglio politique trouvera une solution? Marive parle de la guerre entre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Taxé de gauchisme, ce dernier conseille à l'entourage de Bibi de faire appel au service d'un bon psychiatre. Un commentateur parle de telenovela, un autre chroniqueur lance « ras-le-bol, bande de cinglés ». Pour Yedioth Ahronoth, Netanyahou perd son bâton de magicien. Le compte à rebours est engagé à nouveau, souligne Haaretz. Plusieurs commentateurs parlent de l'impression de déjà-vu, mais aussi, souligne l'un d'entre eux, il ne faut pas oublier que derrière tout cela se cachent les efforts du Premier ministre israélien d'échapper aux poursuites judiciaires dans des affaires de corruption.
Et c'est aussi le retour des sondages, Michel.
65% des personnes interrogées sont mécontentes de la décision de dissoudre la Knesset et d'appeler à de nouvelles élections. 48% des Israéliens, selon un sondage publié par Maariv et par le Jerusalem Post, ne souhaitent plus voir Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre. Son parti, le Likoud, dans une nouvelle configuration, est en légère hausse. Le parti bleu-blanc, côté opposition, lui, en légère baisse. Mais le plus intéressant, Eric, c'est que le parti d'Avigdor Lieberman est pour sa part en progression. Autre élément à retenir, le parti travailliste ne franchit plus le seuil électoral, mais comme toujours, ce qui est important, ce sont les résultats par bloc de parti. La droite obtiendrait 72 des sièges de la Knesset contre 48 pour l'opposition. En d'autres termes, il serait beaucoup plus facile de mettre sur pied une coalition viable.
Alexandre, les résultats du sommet arabe de la Mecque font l'objet de nombreux commentaires dans la presse arabe.
Oui, un sommet qui a mis en garde Téhéran contre toute agression visant les pays du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats. Un sommet qui a aussi apporté son soutien aux sanctions américaines contre l'Iran. L'occasion pour l'Égypte, dont les achats d'armes françaises et allemandes très sophistiquées ont été financés par Riyad et Abu Dhabi, l'Égypte souligne qu'elle est disposée à intervenir, sous-entendu militairement, en cas de menace contre les pays du Golfe. Toutefois, l'Irak, qui a de bonnes relations avec l'Iran grâce notamment à sa majorité chiite, a émis des réserves, tandis que l'émir du Qatar, qui avait pourtant été officiellement invité par le roi Salman, a tout simplement boycotté le sommet.
Par ailleurs, de nombreux journaux reprennent une étude sur les violences conjugales en Égypte, Alexandre.
Oui, et il ne s'agit pas de l'étude qui indique que 40% des femmes seraient sujettes à des violences de la part de leur mari. Il s'agit en fait d'une étude qui indique que les Égyptiennes sont devenues les championnes du monde en matière de violences et de sévices infligés à leurs époux. Selon cette étude citée par les journaux, 28% des femmes agressent leur mari. Plus de 1500 procès de maris affirmant avoir été frappés par leur femme sont actuellement en cours. Un phénomène qui préoccupe les chercheurs, mais que beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux considèrent comme un juste retour de bâton.
Pour finir, Michel, l'image que vous avez retenue cette semaine.
Inévitable, photo de Bibi et d'Yvette Lieberman. Yvette, c'est son prénom russe. Bras dessus, bras dessous lors d'une visite dans la colonie de Nokdim où réside l'ancien ministre de la Défense. Netanyahou porte à ses côtés une mitraillette Uzi. C'était dans les années 80. Depuis, les relations entre les deux hommes ont évolué.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golshani, à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou à podcaster sur notre appli Pure Radio. Demain, place à la musique, aux arts et aux idées avec l'acte 2 d'Arabofolie, festival organisé à l'Institut du Monde Arabe à Paris à partir de vendredi prochain. À demain donc, dans quelques secondes, le journal.